Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur l'attachement de Ruth à l'Éternel. Dans Ruth 1, verset 1. « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec et celui de sa femme Naomi. Les deux fils s'appelaient Malcon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malcon et Kiljon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et des femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Et il leur dit, elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Il y a certains passages difficiles dans la vie et vous êtes peut-être sur un chemin facile aujourd'hui. On ne sait pas quel sera le chemin de demain parce que l'adversité peut frapper n'importe quand. Peut-être aujourd'hui, tout va bien pour vous. Si vous êtes marié, vous avez une maison, vous avez des enfants, vous avez un travail, tout va bien. Eh bien, merci Seigneur. Mais nous savons que l'épreuve peut frapper d'un jour à l'autre. L'adversité va révéler le caractère de chacun, la profondeur des gens. Nous connaissons souvent les gens de manière superficielle, mais quand nous passons par une épreuve, cela révèle le caractère. Nous voyons les gens sous un autre jour. J'ai lu un article qui parlait des arbres qui se trouvent en Californie. Vous savez, ce sont les plus grands arbres du monde, les séquoias géants qui font plus de 80 mètres de haut, plus de 2000 ans d'âge. Et la particularité, c'est qu'ils ont des pommes de pin qui restent fermées. Elles restent fermées, elles peuvent rester fermées pendant même 20 ans sans s'ouvrir. Et quand il y a un incendie, en fait, les pommes de pin vont se dilater. Et c'est à ce moment-là, seulement à ce moment-là, qu'elles vont libérer leurs semences pour que d'autres séquoias puissent être plantées. C'est l'épreuve du feu, en fait, qui va agir sur la pomme de pin pour lui permettre de libérer cette semence qu'elle a en elle. Cette épreuve va amener un changement dans cet arbre. Il en est de même pour nous. L'adversité, les épreuves que nous traversons vont amener des changements qui peuvent être positifs si nous les vivons selon ce que Dieu demande. Donc Dieu dirige tout malgré l'adversité, quels que soient les événements que vous traversez. Nous pouvons dire ce matin que Dieu reste au contrôle, même si tout chancelle, tout est chamboulé autour de nous. Peut-être même qu'à première vue, les événements que vous traversez n'ont aucun sens, mais en réalité, Dieu connaît le début et la fin. Et si on prend une pièce de puzzle toute seule, elle n'a pas trop de sens, c'est peut-être des traits qui vont dans tous les sens, mais si vous la placez dans l'ensemble du tableau, ça reprend toute sa place. Eh bien, ce que nous vivons aujourd'hui est un petit peu comme une pièce de puzzle. Il nous faut voir l'ensemble. Et Dieu, lui, il voit le début et la fin. Et cet ensemble, il est cohérent. L'adversité vous permettra peut-être de rencontrer d'autres personnes que Dieu a prévues pour vous. L'adversité vous poussera peut-être à aller dans tel ou tel endroit, et c'est Dieu qui le permet. Alors ici, il y a une famine en Israël. C'est au verset 1. Et je me suis posé la question, une famine dans le pays de Canaan, comment se fait-il qu'il y ait une famine dans le pays de Dieu ? Canaan, c'est un pays où coule le lait et le miel. On peut dire que c'est le lieu de la bénédiction, c'est le lieu où il fallait être. Et ils ont lutté, ils ont combattu du temps de Josué, du temps des juges, pour s'implanter dans ce pays de Canaan. Mais voilà une famine. Mais il y avait une raison. Il faut lire Lévitique chapitre 26, verset 14, pour remonter un peu. Lévitique 26, 14, il est dit, « Mais si vous ne m'écoutez pas, et c'est Dieu qui parle, et ne mettez point en pratique tous mes commandements, votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. » Eh oui, il y avait une condition. Canaan n'est pas juste un pays qui donne le lait et le miel. Il fallait que le peuple obéisse à Dieu et se soumette à la volonté de Dieu. Ce qui n'avait pas été le cas, on sait que du temps des juges, c'était assez chaotique. Et donc, ils n'ont pas écouté Dieu. Et donc, Dieu, à un moment donné, les a éprouvés en faisant survenir la famine. Alors, quand il y a la famine, deux possibilités. Soit on se repent, on revient vers Dieu, on demande pardon à Dieu, on cherche sa face pour qu'il envoie sa bénédiction. Ou soit ils ont fait le choix, eux, de partir, de quitter Canaan et d'aller vers Moab. Et là, c'est une famille éprouvée. Donc j'ai regardé la signification des noms. Élimélec, le père, donc le mari de Naomi, signifie « Dieu est mon roi ». Naomi signifie « ma gracieuse ». Et puis ils ont deux fils. Le premier s'appelle Malcon, ça signifie « maladif ». Et Kiljan, ça signifie « languissant » ou alors « se morfondre »,« souffrir »,« dépérir ». Je me suis demandé, mais pourquoi ils ont donné des noms aussi tristes à leurs enfants. Et j'ai regardé dans la Bible, il n'y a pas d'autres enfants qui ont été appelés comme ça. Il n'y a que ces deux enfants, Malcon maladif et Kiljon languissant, qui sont nommés comme ça dans la Bible. Déjà, rien que le nom donne une orientation. Alors, ils habitent à Bethléem. On sait que Bethléem, c'est la maison du pain. Et puis, ils sont dans la tribu de Juda. Et Juda, nous savons que c'est que Dieu soit loué. Donc, vous avez le bon endroit, ils étaient dans la maison du pain, c'est-à-dire Bethléem, c'est là où on a le pain de Dieu et on est rassasié. Et puis, ils étaient dans la tribu de Juda, action de grâce, louange. Je crois que pour nous chrétiens, c'est vraiment les meilleures choses que nous pouvons faire quand nous nous consacrons à l'étude de la parole de Dieu, le pain qui nourrit notre âme, quand nous sommes dans la reconnaissance et dans la foi, dans la louange, comme la tribu de Juda, eh bien, nous sommes dans la bonne direction. Mais eux, ils ont fait le choix de quitter Bethléem, la maison du pain, et de quitter Juda, la louange. Et ils sont partis vers Moab. Mais si vous quittez la louange et que vous allez vers les plaintes, les lamentations, les gémissements, que vous quittez la maison du pain où vous avez la nourriture de Dieu pour aller dans le monde, ben finalement, vous allez vous dépérir, vous allez vous déprécier. Ils ont fait le choix de quitter Bethléem. Quand certains problèmes arrivent, au lieu de se repentir, de chercher Dieu, ils quittent Bethléem et ils vont vers Moab. Comme aujourd'hui, certains préfèrent quitter la maison du pain, quitter l'église, rechercher dans le monde autre chose. Mais Élimélec et sa famille ont beau aller chercher mieux en dehors de Bethléem, ils ne vont pas trouver mieux ailleurs. Et même, ça va être pire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas mieux que Bethléem. Vous ne pouvez pas trouver dans le monde quelque chose d'équivalent à ce que vous trouverez dans la présence de Dieu. Ici, vous avez tout avec la parole de Dieu, avec la présence de Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui agit, c'est tout. C'est tout ce qu'il nous faut. Et le monde, lui, il a ses pains, mais ce ne sont pas des pains qui vont nourrir votre âme. Il a sa louange, mais c'est la louange du monde. C'est la musique des choses de cette terre qui ne vous comblera pas. On sait que d'autres ont fait la même expérience. Si on lit un petit peu l'histoire dans le passé, on revient à Abraham. Il a aussi connu la famine. Il était dans Canaan avec sa famille, avec sa femme. Il y avait donc son neveu, toutes les personnes qui étaient avec lui. Il avait connu la famine. Et à cause de cela, il a quitté aussi, lui aussi, il a quitté Canaan pour aller en Égypte. Et puis, il avait tellement peur pour sa femme qu'il a demandé à sa femme, « Dis que tu es ma sœur, par crainte qu'on ne le tue à cause de sa femme et qu'on lui prenne sa femme. » Au début, tout s'est bien passé, donc le mensonge a fonctionné. Et à cause de Sarai, Abraham reçoit des cadeaux. Il reçoit des cadeaux. Alors il pouvait dire « Merci Seigneur pour les cadeaux ». Mais c'est parti quand même sur un mensonge. C'est parti sur une tromperie. Alors il reçoit des cadeaux du Pharaon, il reçoit des brebis, il reçoit des bœufs, il reçoit des ânes. Et puis Abraham, il prend tout ce qu'il reçoit comme cadeau. Il reçoit des serviteurs, il reçoit des servantes, et lui, il prend tout. Mais attention, parce que parmi ces cadeaux, lorsque la vérité éclate et qu'Abraham s'en va, il y avait une des servantes qui faisait partie des cadeaux du Pharaon, qui s'appelait Agar, et qui va donner la naissance à Ismaël, qui va devenir un ennemi du peuple de Dieu. Quand on part sur le compromis, dans le mensonge, les demi-vérités, peut-être il y aura des avantages, mais attention, un jour ou l'autre, ces avantages qui sont mal acquis, qui sont impropres, s'avéreront néfastes et pourront nous perdre. Donc, attention, soyons vigilants. Abraham en a fait l'expérience. Élimélec et Naomi, pour revenir à eux, ils ont quand même fait le choix de quitter Bethléem pour aller vers Moab, mais il faut rappeler qu'est-ce que c'est Moab. Moab, c'est quand même un peuple ennemi du peuple de Dieu. Ce n'est pas là où un croyant il peut aller s'épanouir et faire sa place. Mais bon, ils ont fait ce choix. C'est l'image du péché qui abonde. Sophonie 2:9, alors la Bible en parle de Moab. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel, des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome et les enfants d'Amon comme Gomorre. Un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste des nations de ma nation les possédera. Voilà ce que c'est Moab. Voilà l'endroit où ils choisissent d'aller alors qu'ils sont croyants. Ils savent que c'est Canaan qui est le pays de Dieu. Pour rappel, Moab et Ammon, ce sont les deux enfants issus de l'inceste de Lot avec ses deux filles qui sont devenues deux des ennemis du peuple de Dieu. Après avoir quitté Bethléem, donc, pourquoi Moab ? Les ennemis du peuple de Dieu, parce que là-bas, ils pensent que ça sera mieux que Bethléem. Voilà le problème de certains qui quittent la présence de Dieu pour aller chercher, loin de Dieu, des bénédictions. Alors, ils retournent à leur ancien péché, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit l'impudicité. Mais si vous avez connu le Seigneur et que vous vous détournez du Seigneur pour aller, vous quittez Bethléem pour aller dans le monde, ben vous ne pourrez pas trouver la présence de Dieu, vous ne pourrez pas trouver la paix, vous ne pourrez pas trouver la bénédiction que vous aviez à Bethléem. Donc certains qui n'ont jamais connu la présence de Dieu, c'est-à-dire Bethléem, la maison du pain, ils ont connu que le monde, Moab et ses péchés. Alors, il y a une promesse pour vous, si vous êtes dans ce cas, c'est qu'il y a mieux que ce que le monde propose, c'est la maison du pain, c'est la présence de Dieu, c'est la nourriture spirituelle pour votre âme. Le choix d'un séjour provisoire, dès le début, on voit que ils ne veulent pas rester trop longtemps, parce qu'à la fin du verset 1, c'est dit, c'était pour faire un séjour, juste un séjour. Il pensait rester quelques jours seulement dans le pays. La français courant dit « Ils allèrent habiter pour un temps dans Moab. » Donc, jusque le temps que la famine passe, vous voyez, on part dans un certain projet, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, finalement, au verset 2, « Ils s'y fixèrent leur demeure. » Ils étaient partis pour un séjour, mais ils y fixèrent leur demeure. C'est-à-dire qu'ils vont prendre racine dans Moab. Ils vont rester des années. Et vous savez que les racines, dans un arbre, c'est ça qui le nourrit. Et quand vous plantez vos racines quelque part, c'est là que vous allez trouver votre substance. Et donc, eux, plantant leurs racines dans Moab, eh bien, ils vont ressortir les substances de ce pays. Et malheureusement, ce n'est pas le pays de Dieu. Regardez vos racines. Alors, où sont vos racines dans Psaume 92? Regardez le verset 13. Les justes de Toulouse-Ouest, alors j'ai rajouté Toulouse-Ouest, croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Vous voulez porter encore des fruits dans la vieillesse? Les racines. Les racines doivent être plantées dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est-à-dire Bethléem, la maison du pain, dans Juda, la louange, et là, vous avez tout ce qu'il faut pour être prospère dans les parvis de notre Dieu. Deuxième point, c'est maintenant la mort qui frappe Élimélec et ses deux fils. Trois morts dans cette affaire. Élimélec, c'est le père, donc il est parti loin de sa patrie, il a emmené sa famille loin de la maison du pain. On a dit qu'il était parti dans l'idée de séjourner quelque temps, mais finalement il s'est implanté là-bas. Le plan de Dieu, c'était bien pour lui Canaan. Bon, il a fait son choix, partir là-bas. Il a fait le choix de Moab. Certains choix vont être déterminants dans votre vie, vont vous éloigner de Dieu et vont avoir des conséquences aussi sur votre vie. Certains choix peuvent même écourter notre vie. Vous voyez, ici, ils ont fait un mauvais choix. Le père est mort et puis les deux fils en plus, vont mourir aussi. Donc, Élimélec n'a pas seulement attiré le malheur sur sa vie, mais on voit bien que toute sa famille, elle va être quand même endommagée par son choix. Et en plus, ses deux fils, ils ont tous les deux épousé des femmes étrangères. Évidemment, il les a emmenés à Moab, un pays ennemi de l'Éternel, et eux, ils se sont mariés avec des femmes de Moab, des Moabites, donc des ennemis du peuple de Dieu à la base. Deutéronome 23, verset 3, il y avait des conseils ici. L'Ammonite et le Moabite, donc c'est les peuples en question, n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin de votre sortie d'Égypte. Ben voilà, on voit ce qui s'est passé. Donc, ils ont fait alliance avec les Moabites. Et les deux fils sont morts prématurément. Ben en fait, la désobéissance d'un seul père pour toute sa famille, ça rejaillit comme un chaos. Et cette influence spirituelle, vous voyez, elle se voit. C'est-à-dire que les parents ont une influence spirituelle sur leurs propres enfants. Et vous devez faire les bons choix aussi pour vous-même, pour que vos enfants suivent le chemin du Seigneur. Élimélec a entraîné ses deux fils dans son chemin. On peut réfléchir et se dire, mais si Élimélec avait connu tout ce qu'il allait arriver là-bas à Moab, est-ce qu'il serait vraiment parti dans cette direction? Est-ce qu'il aurait quitté Canaan? Bien certainement qu'il aurait réfléchi et qu'il serait resté à Bethléem. Un grand malheur s'est abattu sur cette famille parce qu'ils ont quitté la présence de Dieu pour chercher des pains ailleurs. Et c'est peut-être le cas de quelqu'un, il a quitté la présence de Dieu pour chercher dans le monde une satisfaction, mais il n'en trouve que souffrance, qu'amertume, il n'y a pas de solution. Priez plutôt pour chercher la volonté de Dieu dans vos vies, parce que toute opportunité, comme aller à Moab, ce n'était pas une bonne opportunité. Jacques 4,15 dit ceci, « Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci, nous ferons cela. » Plutôt chercher les projets de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie, plutôt que de dire, j'ai un problème, alors je pars, et voilà, je ne prie pas, je ne cherche pas la volonté de Dieu, je vais même dans Moab. Non, ce n'était pas le conseil qu'il aurait fallu prendre, c'était plutôt prier, chercher le conseil de Dieu, et qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie dans ma situation. Si Élimélec avait été plus sensible à Dieu, très certainement qu'il aurait évité tous ces désagréments. Maintenant, la situation est comme ça. On va passer au troisième point. Donc, Naomi décide de partir de Moab parce qu'elle a perdu ses deux fils. C'est plus la peine, c'est au verset 6. Elle se leva, elle et ses deux belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Eh oui, à Bethléem, c'était pas la peine de partir de Bethléem. Dieu avait déjà pourvu pour le pain là-bas. Mais ils ont douté, ils ont vacillé et ils se sont précipités vers Moab. Donc Dieu n'a pas laissé son peuple dans la famine. Les habitants de Bethléem avaient été éprouvés un temps, oui, mais ils ont prié, ils ont cherché Dieu et Dieu a pourvu pour le pain. Dieu ne voulait pas les faire mourir de pain, mais les amener à la repentance. Encore aujourd'hui, il y a une source de pain inépuisable dans la présence de Dieu. Si vous venez à Dieu, vous aurez du pain. Certains se plaignent, ah oui, le pain, un peu comme la manne dans le désert, toujours la même manne, mais la parole de Dieu, elle se renouvelle. La manne dans le désert, c'était la nourriture de Dieu. Tous les jours, il y avait de la manne. Tous les jours, nous pouvons lire la parole de Dieu. Vous voyez, la manne, vous ne pouviez pas en prendre pour plusieurs jours d'affilée parce qu'elle pourrissait. Eh bien, la parole de Dieu, il faut la lire tous les jours parce que vous ne pouvez pas dire, tiens, moi, je vais lire la parole pour une semaine. Non, il faut que chaque jour, vous ayez votre portion. Comme la manne dans le désert était chaque jour pour une portion de manne, une parole de Dieu chaque jour pour votre cœur. Dieu veut visiter encore son peuple, encore aujourd'hui. On a toujours besoin d'être renouvelé, visité par le Saint-Esprit, un petit peu comme là dans Canaan. Eh bien, Dieu a visité son peuple et a donné du pain. Eh bien, nous pouvons prier pour que Dieu envoie aussi la pluie de la bénédiction de l'arrière-saison pour être rempli, renouvelé du Saint-Esprit. Les disciples ont toujours été remplis du Saint-Esprit une fois le jour de la Pentecôte et après ils furent à nouveau remplis du Saint-Esprit et par la suite. Il faut rester à Bethléem, c'est-à-dire le lieu où Dieu donne le pain, la présence de Dieu, pour être visité par Dieu. Certains sont impatients, les choses ne se passent pas comme ils pensent, alors ils vont chercher ailleurs, mais prions et attendons-nous à recevoir le pain de Dieu. Quatrième point, c'est au verset 8, c'est Naomi qui congédie ses deux belles-filles. Donc, les deux belles-filles vont commencer le trajet avec elles pour aller en Canaan, mais Naomi va leur demander de retourner à Moab. Ruth 1, 8. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Donc, les deux belles-filles accompagnaient Naomi, donc jusque dans le pays de Canaan, mais Naomi leur a donné toutes les raisons pour lesquelles il fallait qu'elle retourne à Moab. D'abord, il ne fallait pas espérer trouver un nouveau mari auprès de Naomi. Elle était trop âgée. Et quand bien même elle se mariait, elle ne pourrait pas attendre le temps que l'enfant soit assez grand pour se marier avec. Donc, c'était impossible. Il fallait plutôt qu'elle cherche à se remarier ailleurs, et donc à Moab. C'est le choix d'Orpa. Donc, il y avait deux belles-sœurs, hein, Orpa et Ruth. Au début, Orpa est déterminée à suivre Naomi pour aller jusqu'en Canaan, parce qu'elle voulait s'attacher à son peuple. Elle a compris que le peuple d'Israël apportait la bénédiction. Mais finalement, en entendant Naomi, et c'est là qu'elle est éprouvée, elle se dit, est-ce qu'elle était vraiment attachée au Dieu de Naomi? Elle n'était pas vraiment attachée au Dieu de Naomi, elle était attachée à Naomi, à son peuple, mais pas au Dieu de Naomi. C'est ça qui va faire une différence. Parce que certains seront attachés à vous, mais ils ne sont pas attachés à Dieu. Et ils vont vous suivre un temps, parce qu'ils vous apprécient, parce qu'ils vous aiment bien, parce qu'ils veulent bien votre compagnie, mais ils ne sont pas attachés à Dieu. Et s'ils ne sont pas attachés à Dieu, un jour ou l'autre, ils repartiront ailleurs. Donc, voilà ce qui s'est passé pour Orpa. Elle était d'un autre esprit, elle n'était pas finalement attachée à Dieu, et elle est retournée à Moab. Tandis que Ruth, regardez le verset 16, Ruth 1, 16, Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Vous voyez la différence? Ton Dieu sera mon Dieu. Orpa n'a pas dit ça. Et c'est ça qui va faire que le choix de Ruth va s'attacher non seulement à Naomi, mais au Dieu de Naomi, c'est-à-dire à l'Éternel. Et ceux qui sont attachés à Dieu n'abandonnent pas. Ruth ne le sait pas encore, mais en s'attachant à Dieu, elle va se retrouver dans le plan de Dieu pour sa vie. C'est-à-dire que plus tard, on va voir qu'elle va se retrouver dans la descendance même du Messie, du Christ qui va venir. Elle va faire partie de la généalogie de Jésus. Elle a peut-être fait ce choix par affection pour sa belle-mère, parce qu'elle la voit âgée, elle la voit seule, elle se dit « je vais l'accompagner », mais en même temps, elle est conduite par Dieu. Elle a fait le bon choix. Donc, prions pour être conduits par Dieu dans nos choix, parce que certains, comme Ruth, viendront dans votre vie parce que c'est le plan de Dieu et s'attacheront à Dieu, mais d'autres seront comme Orpah. Et ceux comme Orpah, ils vous quitteront un jour parce qu'ils ne sont pas attachés à Dieu. Finalement, ils sont attachés à autre chose. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas le même esprit. Et ils s'éloigneront de vous. Et c'est comme ça, vous ne pouvez pas les forcer à rester attachés à Dieu si ça ne vient pas du cœur. Parce que l'attachement à Dieu, ça doit venir de notre cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer à quelqu'un. Donc certains disparaîtront de votre vie, vous ne savez pas pourquoi. Ils ne se sont pas fait mal, ils ne se sont pas disputés. Ils n'étaient pas en animosité, ils avaient de l'affection l'un pour l'autre, mais ils n'avaient pas le même esprit. Donc il ne faut pas forcer les choses. Parce que certains doivent rester, certains doivent partir. Ça, c'est le plan de Dieu. Certains qui partent même doivent partir parce que sinon, ils vont être une occasion de chute. C'est Jésus, lorsqu'il explique des enseignements un peu plus profonds aux disciples. Donc, vous aviez des disciples de surface. Ils croyaient certains aspects du message de Jésus, mais quand il approfondit, ils disent « Tes paroles sont trop dures, mais qui pourrait les entendre ?» Jésus dit dans Jean 6, 67... Jésus dit aux onze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Comme tous ces disciples qui étaient fragiles, qui ne voulaient pas finalement des paroles de Jésus, vous, est-ce que vous ne voulez pas vous en aller aussi ? Il les éprouve en fait. Il éprouve pour voir s'ils vont rester attachés à Dieu, à Jésus, ou s'ils vont partir. Et Pierre dit, « Mais toi, à qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous restons attachés à toi. » Ils étaient dans le même esprit et c'est ça qu'il faut. C'est garder le même esprit. Laissez Dieu diriger vos relations, parce que Dieu enverra toujours des personnes dans votre vie. Ça, c'est pour accomplir son plan. Il y a des bonnes personnes que Dieu va susciter. Et par contre, lorsqu'il y a des personnes qui sont là et qui vous quittent, restez dans la paix, parce qu'il y a parfois des personnes qui ne peuvent pas continuer avec vous. C'est comme ça, c'est qu'ils ont fait leur temps. Et c'est une perte de temps que de vouloir les retenir avec vous. C'est un peu comme si Ruth... c'est un peu comme si Naomi avait forcé Orpah à les accompagner quand même, malgré son choix de retourner à Moab. Il ne fallait pas la forcer, il fallait la laisser suivre son chemin. C'était son choix. Donc, il faut du discernement pour savoir comment réagir, et ça se trouve dans la prière et dans la présence de Dieu. Un cinquième point maintenant, c'est le retour de Naomi à la case départ, de là où ils sont partis. Donc, on voit qu'à la fin du récit, Naomi arrive avec Ruth et les femmes de Canaan reconnaissent Naomi. Alors, on calcule qu'elle est restée environ 10 ans en Moab. Donc, ça fait 10 ans qu'elle est partie et qu'elle revient maintenant en Canaan. Les autres qui sont restés à Bethléem, ils ont subi la famine quand Naomi est partie, mais ils ne sont pas morts, ils sont toujours là. Ça veut dire qu'ils auraient pu rester aussi et ils ne seraient pas morts non plus. Donc ils ont à un moment douté, mais voilà, et ils ont eu leur chemin. Ils ont traversé l'adversité. Maintenant, il faut mieux être dans l'adversité à Canaan, dans le pays de Dieu, plutôt que dans l'adversité à Moab, dans le monde. Ça, c'est le bon choix. Même si vous avez de l'adversité, restez quand même dans le pays de la promesse, dans la présence de Dieu. Naomi reconnaît qu'elle était dans l'abondance à son départ, c'est dans Ruth 1, 21. Elle dit « J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. » Elle reconnaît quand même qu'en Bethléem, quand elle est partie, il y avait le pain, il y avait la nourriture spirituelle, il y avait tout ce qu'il fallait pour son âme, il y avait l'abondance. Elle voyait en fait, ce pain-là, elle ne le voyait plus, elle voyait le manque. Elle se disait, c'est la disette, c'est la famine, je vais chercher ailleurs. En fait, elle a été piégée par ses propres pensée par ses propres yeux. N'attendez pas de tout perdre pour réaliser ce que vous aviez, parce que vous avez de grandes bénédictions, vous avez des grâces. Vous avez peut-être un époux, une épouse, vous avez une famille, vous avez une maison, une voiture, un travail. Vous avez des grâces qui vous ont été accordées de la part de Dieu. Mais n'attendez pas, remerciez le Seigneur chaque jour pour chaque bénédiction. Compte les bienfaits de Dieu, dit un chant, mets-les devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre de nous. Remercions le Seigneur, soyons dans la reconnaissance, ne méprisons pas ce que nous avons. Parce que si nous ne les avions pas, toutes ces choses, nous serions peut-être dans une situation bien plus tragique. Donc, remercions le Seigneur, même pour le peu de choses que nous avons, parce que c'est encore un bienfait de sa grâce et nous devons réaliser cette importance. Le paradoxe de l'insatisfaction est ici, c'est que Naomi, elle était dans l'abondance quand elle est partie, donc elle reconnaît que c'était vraiment le bon lieu, Bethléem, la maison du pain. Mais elle est quand même partie chercher ailleurs, alors qu'il fallait rester là où Dieu l'avait placée. Et elle est revenue les mains vides, du coup. Elle est partie chercher l'abondance ailleurs, mais elle n'a pas trouvé, elle est revenue les mains vides. En fait, l'abondance, elle n'est pas si loin de vous. Ce n'est pas à la peine d'aller la chercher loin de Dieu. L'abondance, elle est dans la présence de Dieu. Naomi aurait dû rester avec son mari dans la présence de Dieu. Là, il y a une abondance. Si vos yeux sont toujours fixés sur autre chose, un petit peu comme Moab, un petit peu comme penser qu'ailleurs, en dehors de Bethléem, en dehors de Juda, il va y avoir l'abondance, eh bien tout cela, ce sont des mensonges, ce sont des leurres, Elle a reconnu que c'était faux. Elle est revenue les mains vides. Voilà, elle a fait son expérience. Elle a quitté la présence de Dieu, elle revient les mains vides. Le diable vous fera toujours chercher l'abondance ailleurs. Mais pareil, vous reviendrez les mains vides. Il n'y a pas d'abondance en dehors de la présence de Dieu. Alors on a vu dans ce texte que l'adversité frappe tout le monde, que vous soyez croyant ou non croyant, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre. Même que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux, l'adversité, on ne peut pas la calculer. Mieux vaut rester à Bethléem, dans la maison du pain, dans Juda, le lieu de la louange, de l'adoration, que d'aller chercher des solutions dans ce que le monde propose. Moab, les ennemis du peuple de Dieu. Priez pour que Dieu vous conduise dans vos choix. Trop de chrétiens réagissent avec des raisonnements humains, des impulsions. Il demande à Dieu de bénir, mais quelle était la volonté de Dieu? Prions le Seigneur pour qu'il nous dirige dans nos décisions, dans nos choix. Et toutes les personnes qui sont dans votre vie, eh bien, parmi elles, certaines s'attacheront à Dieu, d'autres retourneront parce qu'elles n'ont pas le même esprit, un petit peu comme Orpa, parce qu'elles ne sont pas attachées à Dieu, parce qu'elles ont un autre chemin qui est leur choix, leur vie personnelle. Et nous ne pouvons pas forcer ces gens-là à s'attacher au Seigneur. Ça, c'est leur décision. La prière vous permettra toujours d'être conduit par Dieu vers les bonnes personnes. Que Dieu nous dirige en toutes choses dans sa volonté. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole, pour l'exemple de cette famille et de Ruth qui s'est attachée fidèlement à l'Éternel alors qu'elle était moabite d'origine. Seigneur, tu nous montres que c'est une question de cœur, que tu es venu pour faire grâce à tous, que tu as assez de bonté pour sauver quiconque t'invoque et que, Seigneur, il suffit de s'attacher à toi, à ta présence. Oui, nous voulons toujours chercher notre nourriture dans la maison du pain auprès de toi, Seigneur, où il y a les pains spirituels dans ta parole, où il y a la nourriture pour notre âme. Nous ne voulons pas nous rassasier des choses de cette terre qui ne nourrit pas, mais chercher chaque jour notre nourriture dans ta parole. C'est la seule nourriture de l'âme. Oui, Seigneur, nous voulons rester dans Juda, ce lieu de louange, ce lieu de reconnaissance. Nous voulons, Seigneur, sans cesse faire monter vers toi notre adoration, dans un esprit de reconnaissance, te remercier pour tous tes bienfaits et grâces de chaque jour. Ô Seigneur, garde-nous de tomber dans le piège des plaintes et des lamentations, de ceux qui rejettent Dieu, de ceux qui maudissent Dieu, de ceux qui se plaignent de Dieu. Seigneur, garde-nous toujours fidèles dans ce qui concerne ta volonté, ta parole. Merci pour les personnes que tu envoies dans nos vies. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui le permets. Et nous te prions, Seigneur, de nous donner ce discernement pour marcher à ta suite et toujours te mettre à la première place dans le nom de Jésus. Amen.